Les Trophées de l'agriculture durable récompensent chaque année des initiatives exemplaires d'une agriculture conjuguant productivité, respect de l'environnement et dynamisme économique. Deux entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais ont été distinguées pour leur action, l'une pour la catégorie exploitant agricole, l'autre pour la catégorie structure. Nous retrouvons les deux lauréats, distingués par la Direction régionale de l'alimentation, de la culture et de la forêt, lors d'une cérémonie récemment célébrée à Lille. Et tout d'abord, primée en région dans cette dernière catégorie, Madame Martine Dubois, qui nous présente son association Les Vergers de Haute Terre de l'Avesnois.
C'est des arbres qui sont plantés sur des prairies permanentes, d'où on récolte les fruits pour vendre en état et on fait du jus aussi avec le restant.
On peut dire que ces pommes-là sont biologiques, puisque ces arbres sont particuliers. Ils sont très adaptés aux conditions locales, c'est-à-dire au climat et aussi au terrain.
Oui, c'est bien ça. C'est des arbres qui ne sont pas traités du tout, donc plus que bio. Et on les laisse un peu vivre et se défendre par eux-mêmes, par les petites bêtes, et par les oiseaux, par la tavelure, il y en a un peu, mais bon, on laisse faire la nature. On les retaille, on taille, on enlève le gui, on essaye de les diriger, mais c'est des arbres de plein vent, comme on dit, de plein vent, de haute tige.
Donc on pourrait dire finalement, c'est évident, mais c'est bien sûr, pourquoi ne l'aurait-on pas fait avant ?
Ah, mais il y en avait avant, il y en avait même beaucoup chez nous, dans notre secteur de l'Avesnois. C'était le premier produit des pâtures. Le sous-produit, c'était l'herbe et la viande. La région, elle vivait de ces pommes-là. Et quand est arrivé les vergers bastiges, on a commencé à tout couper parce que c'était bien trop cher à récolter. Il fallait payer des cueilleurs, c'était malade. Les pommes, elles étaient... c'était plus des pommes comme on en veut, des belles, c'était plus des golden. Donc du coup, les agriculteurs ont rasé les pommiers.
Donc vous, votre association s'appelle l'association des vergers haute tige de l'Avesnois. Ça se situe à Joly-Metz dans le 59. Oui. Et on dit haute tige parce qu'en fait, ce sont des arbres qui sont très hauts.
Oui, c'est des arbres qui font, 10-15 mètres, quoi, qui peuvent avoir 70 ans, quoi. Donc, ça fait plusieurs années que, depuis que je suis installée, qu'on replante 10-15 arbres tous les ans pour le paysage, pour le bien-être des bêtes aussi, parce que les bêtes, quand il fait chaud, elles sont bien contentes d'avoir de l'ombre. Et puis, c'était surtout pour avoir des pommes. Et puis là, ici... on s'est vu proposer, le groupe, notre association s'est vu proposer de ramasser ces pommes-là et de faire du jus de pomme. Donc on était un petit groupe de 3 agriculteurs et puis maintenant nous sommes 13 à faire ce même jus.
Pour ces agriculteurs, est-ce qu'il est possible de vivre de ce genre d'exploitation ou que c'est des parties de leur activité ?
C'est une niche, c'est bon. Parce que bon, les arbres, c'est... c'est contraignant quand même. On ne peut pas faire de foin en dessous. Il y a des branches qui tombent, il faut recouper. Les arbres tombent par la tempête. C'est contraignant.
Est-ce que ça a un petit côté bucolique, certainement, mais aussi touristique ?
Ah oui. Sûrement, oui.
Il y a des gens qui viennent vous voir ?
Oui, on n'est pas bien placé, on est sur une voie passante, mais les vergers sont derrière la maison, donc on ne les voit pas, mais je suis sûre qu'on serait sur la route, je suis sûre que oui, et je le dis tous les ans aux gens qui veulent venir visiter le verger au moment de la floraison, de venir voir, parce que c'est magnifique.
Un jour, une opération portes ouvertes ?
Ah, peut-être, oui, bien sûr, moi ça ne me dérangerait pas du tout.
Donc, vous l'avez un peu sous-entendu, sous ces arbres, on peut trouver des animaux, notamment des ovins.
Oui, on a des brebis, oui.
Là, par contre, les brebis, c'est quelque chose qui est rentable d'un point de vue économique.
Ah oui, 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 on essaye, oui. Oui.
Ça cohabite bien, alors.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est mieux d'avoir des brebis que des bovins, parce que les bovins, quand on plante, il faut les protéger les arbres, puisque les vaches, enfin les moutons aussi, mais les vaches vont très haut, donc elles peuvent abîmer les premières branches de l'arbre, donc il faut avoir toute une clôture autour, c'est contraignant. Nous, pour les moutons, avec un grillage, ça suffit, quoi. Mais pour les bovins, c'est plus contraignant.
Donc vous avez obtenu un trophée régional de l'agriculture durable. J'imagine que vous êtes fier. Ça vous ouvre quelle perspective éventuellement ?
J'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça va m'ouvrir comme perspective. Mais bon, on est content, quoi. Mais bon, on n'a pas fait ça pour le trophée, je ne sais pas.
Ça va se fêter chez vous ?
Non, même pas. Non. Peut-être par un verre de cidre et puis une crêpe, puis ça ira.
Voilà, on va rappeler donc l'adresse. Hein. En fait, c'est donc dans un village qui s'appelle
Jolimet.
Et qui est sur quelle route ?
Alors, c'est après le Quesnoy. Pour aller sur la forêt de Mormal, ou quand vous allez, par exemple, sur le Val-Joly, vous passez par là.
Voilà, et là, on trouve l'association des vergers hautes tiges de l'Avesnois. Et bien sûr, Madame Martine Dubois.
Tout à fait.
Alors, une adresse quand même.
Alors, une adresse, alors c'est Dubois, 48 rue du Pavé à Jolimet. C'est sur la rue principale. Si vous voulez du jus de pomme, vous pouvez toujours vous arrêter.
La deuxième exploitation primée en région dans le cadre de ces trophées régionaux de l'agriculture durable est celle de Monsieur Lefebvre, exploitant agricole à Guines, dans le Pas-de-Calais.
Donc c'est une exploitation classique, hein, donc base céréales, colza et pommes de terre, donc près de la côte, près de 19 km de Calais, donc dans une petite ville qui s'appelle Guines, quoi. Et bah, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Disons que j'ai changé un petit peu les méthodes de culture depuis une quinzaine d'années. Donc au fur et à mesure de l'évolution, on a arrêté la charrue, on a arrêté le labour. Et on est arrivé maintenant finalement à faire ce qu'on appelle du semi-direct sous couvert vivant. Donc il n'y a plus aucun travail de sol, si ce n'est éventuellement encore un tout petit peu pour les pommes de terre qui aujourd'hui nécessitent toujours un travail de sol pour pouvoir les planter. Mais on travaille aussi à la réduction des travaux pour cette culture-là aussi.
Alors si on veut bien faire comprendre les choses, certaines cultures, comment vous procédez pour justement faire la différence avec la culture intensive ?
Alors ça reste une culture intensive parce qu'on garde toujours l'arme entre guillemets chimique à notre disposition pour éventuellement maîtriser une situation qui n'aurait pas été totalement géré par nos méthodes. Bon, alors la différence finalement par rapport à un travail classique, c'est que on arrive avec un semoir directement sur un sol qui n'est absolument pas travaillé, sur lequel le plus souvent il est en place une végétation qui est encore verte et vivante, et on arrive à semer dedans, hein, que ce soit du blé à l'automne, que ce soit par exemple de l'orge au printemps ou des févroles au printemps. Généralement ça se passe comme ça, donc il n'y a aucun travail de sol, il y a juste 5 litres de gasoil qui sont dépensés à l'hectare pour pouvoir semer par exemple toutes ces cultures.
Difficile d'imaginer qu'on ne laboure pas un champ.
Oui, j'ai arrêté en 97, donc je ne me pose plus trop la question. Ceci étant, c'est vrai que le labour, ça fait penser au labeur, au travail. Quand on arrête de labourer, on passe pour quelqu'un qui ne veut plus trop travailler. Alors que bon, vous aurez bien compris que le travail se passe un petit peu ailleurs, quoi, donc plus trop dans les tracteurs, mais dans la réflexion. Et surtout la réflexion dans un système beaucoup plus global que ça. Voilà, donc effectivement, on ne travaille peut-être plus trop sur les tracteurs, mais on travaille énormément sur les connaissances agronomiques et sur les connaissances biologiques aussi pour intensifier justement cette agriculture qu'on appelle aujourd'hui écologiquement intensive, c'est-à-dire qu'on va faire revenir sur nos exploitations le génie écologique plutôt que le génie fongique.
Donc ce génie, est-ce qu'il y a autour du génie, c'est-à-dire la formation, la recherche, tout cela, ça contribue à, a donné de nouvelles perspectives. Vous êtes suivi, je suppose, par des chercheurs ou par des gens qui étudient de près de nouveaux procédés.
Dans le cadre du projet que j'ai appelé tout à l'heure Agricobio, donc c'est agriculture et corridor biologique, donc c'est un projet qui a été suivi par différents laboratoires de la région. Il y en avait 6, trois laboratoires de l'ISA, il y avait la FLSC, donc la Faculté libre des sciences, ici à Lille, et il y en a encore un troisième que j'oublie, mais peu importe. Donc finalement, ils ont fait un constat de ce qui se passait au départ chez moi, enfin il y a 3 ans chez moi, et suite aux aménagements que j'ai pu faire, donc au redécoupage parcellaire que j'ai pu faire avec les bandes fleuries, et ils ont été amenés finalement à faire des échantillonnages sur la diversité faunistique qui existe là-dedans, savoir si elle change, si elle peut m'aider et comment elle peut m'aider. Alors effectivement, là c'est assez compliqué. Aujourd'hui on est en terme, on est juste au bout de 3 ans de cette recherche, on est juste au niveau des constats et on n'a pas encore vraiment mis en place des systèmes. On ne sait pas encore vraiment si ces systèmes vont vraiment franchement aider la production, quoi. Finalement, on oublie un petit peu maintenant la chimie qui est comme un petit peu, je sais pas quelle image je pourrais utiliser, mais bon, c'est un petit peu le reset d'une tablette ou d'un ordinateur, et tous les ans on recommence, on appuie sur la touche reset, on recommence, on fait la même chose. Voilà, tandis que là, finalement, c'est pas du tout cette agriculture-là. C'est-à-dire que là, on met en place un certain nombre de choses. Donc, il y a du vivant qui doit s'installer, il y a un vivant qui doit s'installer, on ne sait pas trop lequel s'installe, on ne sait pas s'il va nous aider ou ne pas nous aider, ou au contraire nous nuire. Mais bon, tout ça fait partie d'une recherche qui doit être faite. Donc l'objectif est effectivement, bon, même si je ne suis pas un producteur bio, je ne l'ai jamais très 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 loin, c'est toujours assez proche dans mon esprit. Donc le bio, c'est pas pour moi un préalable, mais ça serait éventuellement une conséquence assez lointaine, sans doute finalement, de ma démarche.
Est-ce qu'en région Nord-Pas-de-Calais, il existe beaucoup de sols qui pourraient intégrer votre forme de culture ?
Tous les sols sont capables d'être semés en direct sous couverture végétale vivante, c'est indéniable. Donc c'est vrai que c'est toujours les gens, la difficulté c'est que les gens, quand on leur parle de ça, ils disent bah oui, ça marche chez toi dans tes sols, mais pas chez moi. Or on s'aperçoit que le semis direct il marche très bien, qu'il y a de la Suède au Brésil, en passant par la France, l'Angleterre, l'Écosse, enfin partout où il y a du semis direct, donc ça marche dans tout type de sol de toute façon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver les bonnes des méthodes qui soient adaptées finalement à notre petite région, effectivement. Mais les principes sont les mêmes, effectivement.
Donc vous parlez de pays étrangers, est-ce que vous avez bénéficié de leur apport en termes de connaissances? Vous êtes allé voir sur place?
Alors je ne suis pas allé dans les pays étrangers, mais par contre j'ai fait quand même pas mal de voyages, de journées de formation finalement, ou d'informations plutôt, passées un peu partout en France. Et avant on n'avait pas, l'outil internet n'était pas si développé, en tous les cas n'était pas si accessible, et donc on devait prendre la voiture pour aller voir un peu ce qui se passait de droite et de gauche, quoi. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, sans se déplacer, en restant chez soi, on peut déjà trouver beaucoup d'informations, et puis maintenant des petits groupes se forment, et je pense en particulier à l'APAD, donc l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, dont je suis le vice-président, et 62 en tout cas, et puis aussi d'autres groupes finalement qui existent aussi et qui font largement avancer qui font largement connaître les méthodes, quoi.
Les nouveaux activistes sont dans les champs alors?
Largement. Il nous faudrait encore un petit peu de chercheurs qui débarquent un petit peu plus souvent dans les champs, qui nous aident vraiment, qui comprennent vraiment nos problématiques, et il faudrait aussi une petite réglementation des fois qui évolue, parce qu'on n'est pas toujours notre système n'est pas forcément en adéquation, ou plutôt la réglementation n'est pas forcément en adéquation avec notre système. Donc ça fait partie d'un travail qu'il faut faire aussi.
On parle actuellement d'une nouvelle révolution industrielle dans notre région. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pourriez proposer une révolution agricole?
Ouais, c'est un grand mot. Non, j'ai pas du tout la prétention de refaire le monde. En fait, on n'a rien inventé. Je veux dire, c'est ce qui se passait. Je pense que les anciens avaient cette forme d'agriculture. Je suppose que la chimie ou les engrais, ou l'avènement de la chimie et des engrais, finalement, a fait qu'on a oublié quelque part ce qui se faisait avant, et on n'a peut-être pas non plus, intensifié non plus cette production dite écologiquement intensive quelque part. Donc, bon, peut-être qu'il y a eu là, à mon avis, un petit trou dans le transfert des connaissances, parce que la chimie a pris la place, quoi.
Il fut un temps, on parlait d'assolement, assolement triennal, c'est-à-dire le fait de laisser une partie du terrain en jachère pendant un an sur 3 ans, ou tous les 3 ou 4 ans, on va dire. Est-ce que ça a encore du sens et est-ce que ça se pratique encore ?
Alors, laisser une terre en repos, c'est ce qu'il faut faire pour la tuer. Au contraire, la terre doit toujours être couverte, toujours être vivante, des racines, les racines doivent toujours vivre. Parce que la faune du sol a besoin de nourriture, a besoin de vivre, a besoin d'énergie. Et laisser un sol en jachère, c'est une véritable catastrophe. Au contraire, il faut intensifier l'occupation du sol. Donc il ne faut jamais que la terre soit nue. Je veux dire, une terre qui est 15 jours à nu, c'est une terre qui commence à mourir. Ça, il faut le savoir. C'est un principe. Ce qui est un principe qui est bien admis, en tous les cas, dans notre cercle de... C'est-à-dire que c'est pas le mot que je vais utiliser, mais en tous les cas, chez les gens qui pratiquent le semis direct, parce que c'est la première erreur à ne pas faire. Donc toujours occuper le sol par une couverture vivante, c'est indispensable.
Mais merci pour cette réflexion et pour nous aider à bien cultiver notre jardin.
C'est gentil, vous pouvez donc remiser un petit peu vos bêches et vos grelinettes, c'est ça? Et puis adopter aussi des techniques finalement de travail, de semis direct dans les jardins, c'est génial.
C'était Monsieur Lefebvre, exploitant agricole à Guine, dans le Pas-de-Calais, qui sera avec Madame Dubois, sa collègue du Nord, en compétition pour défendre les couleurs de la région Nord-Pas-de-Calais au concours national des trophées de l'agriculture durable. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus.